Découvrez l'auteur derrière les mots dans Paroles d'écrivain.
Oui, eh bien, bonsoir. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Gérard Muller pour son dernier livre, Tous les chemins de vie descendent du ciel. Je vous avais déjà reçu précédemment pour votre, parce que vous êtes très, très prolixé comme, vous êtes comme écrivain et vous écrivez beaucoup de livres. Et j'ai le plaisir de vous recevoir donc pour ce livre qui est publié aux éditions Le Lys Bleu. Et donc, ce qui s'intitule « Tous les chemins de vie descendent du ciel ». Alors, première question d'abord, est-ce que c'est un livre qui se rapproche des précédents livres ou est-ce que c'est un livre tout à fait différent au niveau de l'intrigue ? Est-ce que c'est un livre policier, passionnel, roman de fiction ? Est-ce que c'est un livre différent ou c'est vraiment
alors,
un livre...
vous savez que j'écris... Voilà, deux sortes de livres, j'écris des polars.
Voilà, c'est pour cette raison que je vois.
Des polars qui se passent toujours en Occitanie ou en France. Et j'écris aussi des romans de fiction pure, hein, qui eux se passent dans le monde entier. Okay. Donc, au niveau de la géographie, là on est en Indonésie, avant de revenir en France, donc effectivement, c'est un roman. Le vrai thème du roman, en fait, c'est... nos amours de jeunesse nous hantent toute notre vie. Voilà, c'est ça le vrai thème. Après, bien sûr, il y a une intrigue. Hein, une intrigue. Et je me suis basé, en fait, sur un personnage qui est une amie, en fait.
Ah hein, oui, d'accord.
Je ne vais pas nommer son nom. Mais et c'est elle qui m'a inspiré, parce qu'elle était hôtesse de l'air. Et à partir de là, j'ai bâti le roman, qui est un roman essentiellement d'aventure. Quoi, avec un côté un petit peu... un petit peu géopolitique, un peu espionnage, voilà.
D'accord. Alors, l'héroïne du roman, donc, s'appelle, en fait, dans le livre, bien sûr,
Léa,
c'est
oui.
Léa, et donc, elle est hôtesse de l'air, donc, elle est cette personne, et il lui arrive, donc, quelque chose,
oui, l'avion,
qui, malheureusement, ça... arrive souvent, mais elle a une chance inouïe.
Voilà, elle est dans l'Air France qui s'en va vers la Nouvelle-Calédonie. Oui. L'avion est au-dessus des îles Moluques en Indonésie. Et il affronte une tempête terrible, vraiment terrible, au point que l'avion se disloque. Et avant de se disloquer, il y a eu un trou d'air, donc il perd de l'altitude, il a 5000 mètres à peu près. Et là, il se disloque et elle est éjectée, comme tous les passagers. Mais elle a la chance d'atterrir dans la jungle sur un arbre qui l'amortit complètement sa chute. Et elle se retrouve au milieu de la jungle, attachée à son fauteuil
oui.
Suspendu par les branches. Et elle va, après avoir récupéré, et après avoir vu que finalement, elle n'a que des petits bobos, elle n'a rien cassé, elle descend de son arbre, et puis elle est partie dans la jungle. Elle est complètement perdue. Hein. Elle est à moitié nue, elle n'a plus de vêtements, plus rien du tout. Hein. Et elle est partie dans la jungle, elle ne sait pas du tout où elle est, à part qu'elle sait qu'elle est aux îles Moluques. Hein. Et puis elle va affronter la jungle avec les bêtes sauvages, etc. Et au bout de quelques jours de désespoir, hein, elle va tomber sur un ermite.
Voilà, un ermite qui s'appelle Mike.
Qui s'appelle Mike, voilà.
Qui ressemble à Tom Cruise.
Qui ressemble à Tom Cruise et qui ressemble à son amour de jeunesse.
Voilà, oui, parce qu'on va revenir sur son passé aussi.
C'est amour de jeunesse qui a disparu un beau jour. Continue à la hanter toute sa vie au point qu'elle ne tombe amoureuse que des hommes
qui ressemblent à
son amour jeunesse et aussi à Tom Cruise.
Voilà. Donc alors elle va bien sûr tomber sur cette personne, cette ermite, hein, qui est là depuis combien d'années ?
Alors, il prétend être là depuis quelques années.
Ce qu'il dit, voilà. Bien sûr.
Il prétend être américain. Bon, après, on ne sait pas s'il est américain, on verra. Oui. Il faut lire le bouquin. Hein.
Oui.
Il prétend être là depuis quelques années. C'est pareil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Et il prétend avoir fui la société de consommation qu'il dégoûtait complètement pour se réfugier dans la jungle et vivre complètement en autarcie. Alors, cela dit, il sait se débrouiller dans la jungle.
Oui.
Il chasse, il pêche,
hein.
Il s'organise un petit, pas un bungalow, mais un petit coin de vie à l'abri notamment des pluies, parce qu'il pleut beaucoup. Hein. Voilà, et donc il paraît totalement en accord avec ce qu'il dit, et avec ce qu'il a voulu faire. Quoi.
Et ils vivent dans quelles conditions ils ont c'est lui-même qui s'est construit un abri, une cabane, une...
Oui, mais lui s'est construit un petit abri.
Oui, parce que c'est lui, il était voilà. depuis un moment, bien sûr.
Et donc, elle tombe sur ce... Eléa tombe sur ce Mike, là, sur cette ermite. Hein. Elle a très peur au début, parce que...
Oui, elle ne sait pas de qui elle a affaire.
Qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va lui faire est-ce qu'elle va être son objet sexuel, etc. Et à sa grande surprise, c'est presque un gentleman
oui.
qui l'accueille, qui lui montre comment pêcher, etc. Et qui lui donne à manger, etc. Donc, et bien sûr, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà.
Et alors là, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des bêtes, bien sûr, des bêtes sauvages qui rôdent autour du campement.
Quand elle est seule, elle tombe sur un tigre.
Oui.
Heureusement, le tigre n'a pas voulu d'elle. Hein. Il y a beaucoup de singes, et puis il y a des serpents, il y a des araignées, tout un tas de bêtes de sauvages. Elle, qui a un peu peur de tout ça, elle est complètement paniquée. Mais lorsqu'elle va tomber avec Mike, il domine tout ça, il n'y a aucun problème.
Il domine tout ça, il aide beaucoup. D'accord. Et alors, elle se trouve au Moluc. Bon, elle ne sait pas au départ qu'elle est...
Elle se rappelle que, vous savez, dans un avion, il y a une carte... une carte interactive, vous voyez où vous êtes.
Ouais.
Et son dernier souvenir, avant que l'avion se casse la figure, c'est qu'elle était au-dessus des îles Moluques. Donc, comme elle est dans la jungle, elle se doute effectivement qu'elle doit être par là. Quoi. En Indonésie, au moins.
En Indonésie, voilà. Bien sûr.
Voilà.
Voilà. Et alors, donc, est-ce qu'elle a conscience que cet avion, parce qu'il s'est crashé, mais elle ne sait pas où il se trouve, finalement, où les débris de la...
Non. Elle est tombée assez loin des débris.
Oui.
Hein. Alors, après, dans la suite du bouquin, avec Mike, ils vont retrouver les débris de l'avion. Et là, il y a une scène un peu assez horrible, effectivement, elle découvre sa chef de cabine... qui est à moitié, elle découvre la moitié du corps de sa chef de cabine, qui est à moitié mangée par des bêtes sauvages. Mmh. Voilà, et donc ça, c'est une scène assez terrible.
Oui.
Mais en même temps, elle trouve les restes de l'avion, elle trouve de quoi se nourrir aussi, puisque elle retrouve ce qu'on appelle son galet,
l'avion.
Elle retrouve la nourriture là, qu'elle gérait lorsqu'elle était hôtesse de l'air. Parce qu'elle était hôtesse de l'air en classe business, donc elle avait de quoi bien manger, voilà.
Oui.
Voilà.
Donc,
il y a les deux côtés, il y a le côté affreux, puis il y a le côté où il trouve un petit peu à manger, et à boire aussi, du vin, parce que dans la jungle, il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'alcool. Ouais.
Et lui, ça fait plusieurs années qu'il est là, et qu'il survit, même, apparemment, il est comme chez lui, là.
Oui, alors, c'est ce qu'il prétend.
Oui, voilà,
c'est ce qu'il prétend. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, il faut lire le bouquin.
Oui.
Mais en tout cas, il se comporte, comme je l'ai dit, en vrai gentleman, et il l'aide. Et à un moment donné, elle doit décider si elle reste avec lui ou si elle retourne à la civilisation. Hein? Sachant que, d'après Mike, il y aura un village indonésien pas très loin, enfin, quelques jours de marche. Et Mike la persuade de s'en vouer au sort. C'est-à-dire qu'elle dit, on va tuer un animal, on va tuer un oiseau, on va regarder ses viscères, et le hasard va nous dire si on part ou si on ne part pas. Mmh. Voilà. Et le hasard parle, et les viscères ont parlé, et ils décident effectivement de quitter le petit abri de Mike et de rejoindre la civilisation. Ils tombent sur des autochtones.
Ils tombent sur des espèces de pygmées.
Des espèces de pygmées.
Des hommes très, très petits.
Oui, il faut savoir qu'il y a 30 000 ans, en Indonésie, il y avait ce qu'on appelle l'homme de Flores.
L'homme de Flores, voilà.
Qui était un hominidé, mais tout petit, qui ne mesurait pas plus d'1m10, 1m20. Et lorsqu'il tombe dessus, cette race de pygmées qui mesure effectivement 1m20, quelque chose comme ça, ils pensent que c'est peut-être des restes des hommes de Flores qu'on aurait retrouvés, bien qu'on sait que la civilisation a complètement disparu. Voilà. Donc ça aussi, c'est le début d'une autre histoire.
Mais qui peuvent vivre jusqu'à 150 ans.
Alors vous dévoilez un petit peu...
Ah non, je dévoile.
Oui. Alors effectivement, Et c'est là que commence la partie un petit peu espionnage ou géopolitique de la chose. Hein. C'est effectivement c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent vivre jusqu'à 150 ans. Mmh. Donc quel genre de secret, etc. Et la connaissance de secrets va développer tout un tas de problèmes qui vont leur tomber dessus, hein, jusqu'à une fin qu'on peut dire assez dramatique. Voilà.
Et la vie de Léa avant ce crash, là, c'est comme, qu'est-ce qu'elle faisait avant d'être hôtesse de l'air?
Elle était hôtesse de l'air, alors bon, elle était hôtesse de l'air, mais elle a toujours cette cicatrice de son premier amour,
voilà,
qui a disparu. Alors qu'ils étaient adolescents, enfin, non, ils avaient 17-18 ans, ils étaient dans un camp scout en Corse.
En Corse, oui.
Et Guy, parce qu'il s'appelait Guy, cet homme, a disparu une bonne nuit, mm-hmm, dans la forêt de Vizzavone, hein, en Corse. Mm-hmm. Et depuis, elle le recherche, sachant qu'il n'a jamais été trouvé, on n'a jamais trouvé ni son cadavre, ni on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. On l'a cherché de très longtemps et on ne l'a jamais retrouvé. Et c'est pour ça que ce Guy hante toute sa vie et qu'à travers sa vie, il est toujours à la recherche, à sa recherche. C'est le vrai terme du bouquin.
Hein. En fait, et il faut signaler aussi que dans l'avion, avant que le crash ne se produise, elle remarque un homme qui ressemble lui aussi à cet homme Cruise.
Tout à fait.
Et cette image ressurgit dans sa mémoire.
Oui, parce que chaque fois qu'elle tombe sur un homme qui ressemble plus ou moins à Tom Cruise, mmh, et à Guy, son premier amour, ben, elle a un flash et quelque chose se passe. À croire d'ailleurs qu'elle voit Tom Cruise dans tous, dans
oui,
tous les hommes qu'elle rencontre. Quoi.
Ah, oui. Voilà. Donc, elle arrive même à se demander si s'il n'était pas dans l'avion.
Voilà. Si Mike n'est pas. Si Mike.
Je dis, c'est un ermite, est-ce que c'est pas.
Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est pas l'homme qui était dans l'avion,
voilà,
qui est tombé
voilà,
aussi
voilà,
et qui. Voilà. Après, il faut lire le bouquin.
Hein. Oui, il faut lire le bouquin, bien sûr.
On ne va pas tout dévoiler.
Oui.
Mais il se passe beaucoup de choses après. Oui.
Il se passe beaucoup de choses, oui, oui. Parce que, alors après, bien sûr, elle voudrait rentrer en France, finalement. Chez elle, plutôt. Et elle essaie de faire en sorte de. Comment se débrouille-t-elle pour essayer de quitter Dumont-Luc ? Parce que lui, apparemment,
alors lui, tellement chaud pour. Lui, il n'est pas très chaud, voilà, pour des raisons que le lecteur découvrira oui, dans le livre. Oui. Hein, il a tout à fait raison. Mais par hasard, ils vont vers le sud, là, parce qu'ils savent que dans le sud de l'île, il y a des. Il y a la mer, d'ailleurs, c'est les pygmées qui leur ont dit ça. Hein. Et un beau jour, ben, il y a un hélicoptère de l'armée qui passe au-dessus d'eux. Mmh. Bon, la première fois, elle croit que l'hélicoptère ne les a pas vus. Mais l'hélicoptère fait demi-tour et il y a quelqu'un qui vient la chercher, qui va la élitreuiller pour la mettre dans l'hélicoptère de l'armée, d'ailleurs. Mike hésite, mais finalement, il est aussi élitreillé. Ils partent rejoindre une base militaire et là, le monde entier va apprendre qu'il y a une survivante au crash de l'avion d'Air France, hein, qui est cette Léa. Donc là, elle va être d'un seul coup, presque pas une idole, mais elle va rencontrer toutes les médias du coin, même internationaux. Et là, c'est là qu'elle va révéler le fait qu'il y a peut-être une civilisation qu'on croyait disparue. Et qui est toujours vivante, peut-être, des descendants des hommes de Flores.
Très bien. Voilà. Mais nous allons passer à notre pause musicale. Et vous avez choisi comme interprète et comme chanson.
Alors, j'ai choisi Alain Barrière avec Nicole Croisic, parce que c'est une chanson que j'adore. Puis, ça tombe bien avec le thème du bouquin où le gars, Guy, il est parti.
Oui.
Putain, il est parti. Hein, c'est un beau jour.
D'accord, bien, on va l'écouter.
Mais non, mon cœur ne s'aimait rien que quelques semaines à 5 ans. nous appartient, nul ne saurait nous le reprendre.
Tu t'en vas.
L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre.
Tu t'en vas. Comme un été, comme un dimanche.
J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide et de l'absence.
Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus. Le monde n'est qu'indifférence.
J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence.
Tu t'en vas.
Ce n'est mon cœur que le sait bien, qu'un caprice de l'existence.
Tu t'en vas.
Le temps, l'espace ne sont rien si tu me gardes ta confiance.
Tu t'en vas. Tu t'en vas, je reste là, seul et perdu, comme au pire genre de l'enfance.
J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence.
Tu t'en vas, soudain pour moi tout s'assombrit. Le monde n'est qu'incohérence.
J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence.
La, 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 la.
Bon, mais maintenant, nous allons reprendre notre conversation et vous allez nous lire un extrait de votre livre, après avoir écouté cette pause musicale.
Alors l'extrait se passe au début du livre, exactement, c'est juste avant le crash. Hein.
D'accord.
Une nouvelle secousse fait trembler la structure, suivie d'une succession de soubresauts de plus en plus prononcés. Nous sentons ainsi brinque-ballée de droite à gauche et de bas en haut, entraînés dans une machine à laver qui serait devenue complètement chaotique. Soudain, un trou d'air qui se prolonge. Tout vole dans la carlingue, de la vaisselle restante, des magazines, quelques couvertures et même une valise qui va s'écraser sur une cloison en la déchirant. Une bouteille d'eau en profite pour visiter le plafond avant de s'affaler sur ma veste qui s'en trouve complètement trempée. Une longue chute libre qui place l'ensemble des passagers en apesanteur. Des cris se propagent dans toute la cabine, des cris stridents, paniqués, désespérés. Je croise les doigts comme si je possédais le pouvoir d'arrêter ce lave-linge devenu fou et qui envoie tout valdinguer. La dégringolade continue, aspirée par un énorme vortex, tandis que les hurlements redoublent. Et les pilotes qui ne disent rien, ils doivent être trop occupés à tenter de redresser l'appareil. Nous, les deux hôtesses, essayons de nous donner une contenance en forçant un peu un sourire dans lequel chacun peut lire une panique à peine dissimulée. La descente aux enfers s'arrête aussi brutalement qu'elle avait démarré. Je me trouve compressé sur mon siège, et doit peser plusieurs fois mon poids. La structure de l'avion ne peut pas résister à une force pareille, songeais-je, en me plaçant dans une position fœtale, comme pour me protéger au sein du ventre maternel. L'aéronef semble avoir récupéré une certaine horizontalité et les hurlements s'estompent, portés par un vent d'espoir qui traverse la cabine. C'était sans compter sur les éléments. Le tambour de la lessiveuse reprend de plus belle. Ballotté, bousculé, malmené, les passagers ne sont plus que des pantins entraînés dans une ronde infernale, soumis à la volonté d'une essoreuse devenue complètement démente. Une nouvelle chute, encore plus longue, ponctuée de soubresauts désespérés, comme si l'avion tentait de résister dans des sursauts pathétiques. La cabine n'est plus qu'une immense crie qui la parcourt dans toutes ses dimensions. Toutes les hôtesses sont maintenant plus qu'inquiètes, paniquées. Mais surtout, ne pas le montrer. Serrer mon postérieur en attendant que ça se passe. Prier aussi. Nous n'avons jamais connu de telles turbulences. Même dans les simulateurs de vol, même au-dessus de l'équateur. L'appareil semble se redresser, se cabrer, comme un cheval devenant un obstacle. Un vent d'espoir remplit alors l'habitacle. Un zéphyr très vite remplacé par un énorme craquement. Toujours amarré à mon fauteuil, je me sens aspiré par un ouragan. Mon siège et moi entamant alors une série de loopings dans ce que je pense être une soufflerie. L'air me fouette les joues, installe le chaos dans ma coiffure, soulève ma jupe. Et il me gèle tant qu'il est glacé. Ma respiration recherche désespérément de l'oxygène qui me manque. Avant de m'évanouir, j'ai juste le temps de remarquer que je ne me trouve plus dans l'avion, mais que je tombe au milieu des nuages, complètement trempé et transi.
Merci. Voilà. Oui, et je voulais revenir là, lorsqu'elle est récupérée, donc parce que ce sont les forces armées indonésiennes qui la récupèrent. Elle prend contact avec l'ambassade de France. Qu'est-ce qu'elles sont, ces démarches ? Ensuite,
elle annonce aux militaires indonésiens que c'est une rescapée de vol en France. Alors là, tout de suite, les militaires indonésiens avertissent l'ambassade de France. L'ambassadeur de France arrive dans l'aéroport militaire et va lui dire, écoutez, on va rentrer en France. Mais d'abord, vous avez une épreuve terrible. Vous allez être confronté à une conférence de presse du monde entier. Et les télévisions du monde entier qui veulent absolument vous voir et voir la seule rescapée de ce vol. Voilà. Donc elle va être confrontée devant plusieurs centaines de journalistes, des télévisions qui tournent en direct. Et c'est là qu'elle va évoquer un scoop. C'est-à-dire qu'elle va dire, voilà, il y a une civilisation disparue qui existe toujours. Voilà. Et là, ça fait le buzz complet dans tout le monde entier. Voilà. Donc ils décident, après, la France et l'Indonésie décident d'envoyer une expédition à la recherche de cette civilisation disparue. Et donc, elle va faire aussi partie de ces expéditions. Et Mike aussi, parce que Mike connaît...
Mike, pendant ce temps, il suit quand même.
Mike va suivre, parce qu'il connaît la région.
Il n'est pas resté au Moluques.
Oui, il va aussi l'accompagner.
Il l'accompagne.
Et là, il va se produire un drame que je ne vais pas raconter.
Oui, bien sûr.
Un drame absolu qui va faire que le bouquin n'a pas encore une fin, parce que là, il y a une deuxième partie
où
on trouve Léa en fin de vie et où son fils, David, l'accompagne dans un suicide assisté. Et c'est là que David va apprendre toute la vérité.
Voilà, c'est là qu'il y a. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous faites une analyse aussi des cultures locales aussi, également, en fait, des Pygmées, de ces peuplades qui... Est-ce qu'elles existent ?
Lorsque j'ai écrit le livre, j'ai eu une intuition, parce que l'homme de Flores m'a toujours intéressé. Cette civilisation disparue, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours intéressé. Et lorsque j'ai écrit le livre, effectivement, j'ai imaginé d'un seul coup, tiens, on va tomber sur les hommes de Flores. Voilà. Et après renseignement, j'ai regardé un peu sur Internet, il existe vraiment, effectivement, des pygmées en Indonésie. Donc, effectivement, ce n'est pas les hommes de Flores, mais c'est aussi une race de... Pas une race. Là, ce sont des homo sapiens, pygmées homo sapiens. On ne peut pas parler de race, puisqu'ils sont comme nous. Mais ils sont tout petits. Voilà.
Et ils ont été adoptés par, quand ils étaient sur l'île.
Oui, bien sûr.
Ils ont été adoptés par ces gens-là.
Les gens les ont découverts.
Oui.
Et c'est la première fois qu'ils voyaient des humains aussi grands.
Oui, oui.
Et donc, ils ont été tout de suite adoptés. Ils ont fait partie d'un... participer à un rituel, à une soirée de danse.
Oui, une soirée de danse.
Où ils ont bu des substances un petit peu hallucinogènes, voilà, etc. Et voilà, donc ils ont été effectivement adoptés. Après, lorsqu'ils vont revenir à la recherche de ces pygmées, mais ils vont retomber dessus, c'est là en fait que. Parce qu'ils vont revenir avec des scientifiques, les scientifiques vont découvrir qu'en fait c'est des Homo sapiens. Hein. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de dramatique.
Alors, ce livre, vous en avez parlé au début, où vous êtes inspiré de personnes que vous connaissiez. Alors, finalement, c'est de la fiction totale ou
c'était Ah non, c'est une, êtes... c'est une fiction totale.
Totale.
Complètement totale. Je travaille souvent comme ça. C'est-à-dire que lorsque j'écris, je ne sais pas trop où je vais, mais je pars d'un personnage que je connais ou je ne connais pas, d'une situation à un lieu. Et après, le roman se construit tout seul. Comme disait Aragon, je suis le premier lecteur de mes romans. C'est-à-dire que je découvre au fil de l'écriture. Voilà, l'inspiration me vient. Puis ça.
Et vous vous documentez pour...
Bien sûr.
Voilà, vous documentez, je pense que c'est pas...
Bien sûr, il faut documenter. Voilà. Oui. On a la chance aujourd'hui d'avoir Internet. Hein,
oui.
Qui est, on a l'encyclopédie mondiale à portée de doigts. Hein, okay. Et je pense souvent aux auteurs comme Victor Hugo, etc., qui n'avaient pas, pas tout ça. Hein. Mais nous, on a la chance, nous, auteurs du 21e siècle, on a la chance d'avoir tout ça. Donc, il n'y a aucun souci pour trouver de l'information. Hein. Après, on peut même téléphoner à des spécialistes ou à des gens comme ça. Hein.
Et vous avez mis combien de temps pour écrire ce livre? Vous l'avez écrit...
Alors, ce livre, je l'ai écrit, je l'ai commencé il y a 3 ans, 3-4 ans. Et je l'ai arrêté. J'ai mis 2-3 mois à l'écrire. Je l'ai arrêté parce que je ne trouvais pas la fin. Ça ne me satisfaisait pas. Hein. Et je l'ai arrêté pendant plus d'un an. Plus d'un an et demi. Et au bout d'un an et demi, paf, d'un seul coup, l'inspiration. Mon subconscient en avait profité pour travailler. Et d'un seul coup, l'inspiration est venue. Et j'ai trouvé la fin. Et c'est pour ça que j'ai rajouté une deuxième partie. Une partie qui n'est pas Léa, mais qui est David, le fils de Léa. Et qui se passe en 2038, il me semble. Qui se passe dans le futur.
Oui, dans le futur, oui, 2050.
Oui, ou 2050.
Voilà. Et je voulais vous parler du titre aussi. Alors, tous les chemins de vie descendent du ciel. Vous l'avez trouvé avant d'écrire le livre?
Non, je trouve après.
À la fin.
Je trouve tous les titres après.
Après.
Oui, parce que. Contrairement à certains auteurs. Oui, alors, comme le vrai thème du livre, c'est que c'est notre amour de jeunesse nous hante toute notre vie. Là, Léa est tombée du ciel pour retrouver un petit chemin de vie qui est son amour de jeunesse. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Puis je trouvais que c'était assez poétique.
Oui, c'est poétique, c'est très, très poétique.
Oui, le titre est important.
Oui, très important.
Vous accrochez le lecteur.
C'est vrai.
Il y a le titre, il y a la photo, il y a la quatrième de couverture.
C'est vrai. Et je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez des rituels d'écriture, c'est-à-dire vous travaillez régulièrement, tous les jours
Alors contrairement, il y a certains auteurs qui ont besoin d'un rituel.
Oui.
Ils se lèvent à 4h du matin,
voilà,
il faut que le stylo soit là, que l'ordinateur soit là, que la lumière soit comme ça. Non, moi, j'agende de pouvoir écrire quand je veux. Tiens, là, je pourrais écrire. Je pourrais écrire, donc c'est la chance.
Et ensuite, vous laissez, puis vous reprenez.
Alors souvent, ça m'arrive dans les polars. Les polars, c'est intéressant, parce que le polar, c'est pareil, je l'écris au fil de l'écriture. Hein. Je ne connais pas la fin. Et souvent, au milieu d'un polar, je suis bloqué. C'est-à-dire que l'intrigue s'est déroulée, mais je ne sais pas comment la finir. Dans les romans aussi, ça arrive quelquefois comme ça. Hein. Donc, dans ces cas-là, j'ai un remède infaillible. Je prends mon vélo, je vais faire 1h30 de vélo, sans penser du tout au roman, hein, sans penser à l'écriture. Et je sais que 9 fois sur 10, au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, j'ai la solution. C'est-à-dire qu'en faisant du vélo, je ne sais pas, mon cerveau doit s'oxygéner, et mon subconscient travaille, et au bout d'1 heure, j'ai la solution, ça y est, j'ai trouvé la fin. J'ai trouvé qui est coupable pour un polar et pourquoi, quel est le mobile. Hein, voilà, parce qu'il faut trouver les deux. Un roman, c'est la même chose, c'est un peu pareil. Bien, parce qu'il y a toujours, dans mes romans, il y a toujours pas une intrigue, mais il y a forcément un peu de suspense.
Bien sûr.
Forcément.
Vous avez écrit combien de livres là,
j'ai écrit 70 livres.
70 livres, oui. Voilà.
Moitié roman, moitié polar. Oui. Oui.
Et au départ, au niveau de l'édition, comment ça s'est passé? Vous avez des difficultés à le faire éditer?
Oui, comme chaque auteur, c'est difficile au départ de trouver un éditeur. Hein. Donc au départ, j'ai édité sur des... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des plateformes d'édition. Il y a Amazon, par exemple. Oui. Vous pouvez très bien vous éditer sur Amazon, mais ça... C'est presque de l'auto-édition, mais il y a des sociétés comme les éditions du Net où vous envoyez votre manuscrit, ils le prennent, enfin vous le mettez en forme, bien sûr, vous choisissez la couverture, et ils le prennent et ils font ça gratuitement, ils le mettent sur le marché gratuitement. Après, vous achetez vos livres à 70%. Et j'ai trouvé un vrai éditeur qu'au bout du 10e ou 15e bouquin, j'ai trouvé un vrai éditeur, et depuis, je suis assez fidèle à cet éditeur. Alors celui-là, non. Celui-là, il est au Lys Bleu, parce que je voulais un éditeur... Parce que mon éditeur, il habite Perpignan, et donc il a une diffusion assez locale, quoi, en Occitanie. Et là, je voulais une diffusion nationale. C'est pour ça que je voulais voir un éditeur parisien. Bon, après, le Lys Bleu, il y a à boire et à manger, mais... parce qu'ils éditent pas mal de... Beaucoup trop de choses, à mon avis. Mais il est sur les plateformes digitales, on peut l'avoir dans les librairies.
Et vous avez un livre actuellement en préparation?
Oui, alors justement là, j'arrive de Montauban. Ouais. Je suis allé visiter le musée Ingres-Bourdelle, parce que maintenant c'est le MIB. Oui. Parce que je viens de terminer un polar qui se passe dans ce musée, et dont le titre est « On a volé le violon d'Ingres ». Un beau matin, le gardien arrive et il n'y a plus de violon d'Ingres dans la vitrine où il est exposé. Hein. Et c'est le début du polar. Alors c'est un polar, c'est ce qu'on appelle un cosy mystery maintenant. Il n'y a pas de cadavre. Hein. Et donc je suis allé au musée pour faire une dernière visite pour peaufiner mon livre. Hein. Je vais sortir d'ici un mois et demi. Et aussi pour rencontrer la conservatrice. Pour lui demander l'autorisation, parce que j'ai pas le droit de parler du musée sans leur autorisation. Mais l'autorisation que j'ai obtenue, d'ailleurs. Donc, voilà. Elle est totalement ouverte. Au contraire, ça lui plaît. Voilà. Donc, ce livre a fini.
Ah, il est terminé.
Enfin, j'ai quelques corrections à faire suite à ma visite, mais sinon, il est fini. Donc, voilà. Après, le prochain, je n'ai pas encore décidé.
Et pour ce livre, vous faites des salons, des promotions, des dédicaces.
Oui, j'ai fait... En ce moment, j'ai pas mal de dédicaces. Dimanche dernier, j'étais au Salon des gourmets de lettres.
Ah oui, gourmets de lettres, oui.
Qui est un salon qui est assez connu, qui est dans l'hôtel de la César.
L'hôtel de la César, oui.
Où j'ai présenté mes livres. Hein. Samedi, je suis à Cultura à la Bège, j'étais à Cultura Balma, et là j'ai pas mal de salons. Jusqu'à la fin de l'année, j'ai beaucoup de salons.
De salons.
Ouais, et de dédicaces.
Et dédicaces.
Oui, parce que ça, il faut en faire quand même. Hein.
Bien sûr, oui.
Il faut en faire déjà pour nos éditeurs, hein, pour les éditeurs. Entendu. Et puis pour faire un réseau, pour faire... Et puis là, la récompense d'un salon, c'est quand il y a un lecteur qui arrive, qui dit, voilà, j'ai beaucoup aimé votre livre, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Et là, c'est vraiment la récompense.
Vous avez de bons retours, quoi. Voilà.
Oui, j'ai d'assez bons retours. Bah, quelquefois, j'ai des retours moins bons, on va dire.
Oui, mais ça, c'est...
Mais une critique, tant qu'elle si elle est argumentée, j'accepte. Oui, moi, ce que j'accepte pas, c'est les critiques. On dit, voilà, c'est nul.
Bon, oui, voilà, pourquoi, bien sûr. Bien sûr.
Mais il y a des gens qui vous disent, voilà ça, votre roman a tel et tel défaut. C'est intéressant, parce que moi, j'apprends des choses aussi.
Bien sûr.
Il faut se perfectionner. Hein. Même au bout de 70 livres, il faut quand même continuer à se perfectionner.
Bien sûr. Hein.
Mais c'est vraiment une dédicace, un salon, c'est vraiment, il y a des occasions privilégiées où on va rencontrer des lecteurs.
Très bien. Eh bien, je crois que malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission.
Déjà.
Et oui, déjà, demi-heure passe vite. Je voudrais rappeler, bien sûr, le titre de votre livre, « Tous les chemins de vie descendent du ciel » par Gérard Muller aux éditions Le Lys Bleu. Hein, donc, je vous souhaite, bien sûr, bonne continuation de votre écriture, parce que je vois que vous en avez beaucoup écrit et que vous en continuerez à écrire beaucoup. Et je vous donne rendez-vous, donc, à l'occasion, peut-être pour votre prochain livre, pour que vous puissiez le présenter ici dans nos locaux.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci de m'avoir accueilli.
Merci, avec plaisir, c'est moi. Merci et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Altitude FM.